Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Dans un instant, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez un complément d'information, et bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris, 33 9 693 693 70, et nos experts, nos correspondants, nos envoyés spéciaux vous répondent en direct. Et puis dans 30 minutes, un débat, nous parlerons tout à l'heure de Thomas Sankara. Il y a 31 ans, le 15 octobre 1987, le président du Burkina Faso était assassiné lors d'un coup d'État. Et pour marquer cet anniversaire, la première pierre d'un monument à sa mémoire a été posée en début de semaine à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Un monument pour entretenir l'idéal qu'il défendait. D'ailleurs, le président Roch-Marc Christian Kabore a souligné que son sacrifice pour l'émancipation et la dignité du peuple burkinabé ne sera pas vain. Alors pourquoi le mythe Sankara est-il toujours aussi vivant? Pourquoi le père de la révolution burkinabé continue-t-il d'incarner l'espoir pour une partie de la jeunesse africaine, des jeunes qui pour la plupart ne l'ont jamais connu? Vos réactions évidemment nous intéressent. 33 9 693 693 70 et vos commentaires postés sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions. Et on va commencer avec des questions sur les élections régionales de dimanche dernier en Bavière. On vous en a longuement parlé lundi évidemment avec notre correspondant à Berlin. Fred, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Brazzaville, nous vous écoutons.
En Allemagne, l'Union chrétienne sociale, alliée historique de la chancelière Angela Merkel, perd la majorité absolue en Bavière lors d'une élection régionale. Mmh. Alors, Juan, ma question est celle de savoir, est-ce que cette chute était prévisible? Dans quelle mesure la percée des Verts et de l'extrême droite à l'élection régionale pourrait-elle bouleverser le gouvernement Merkel?
Ouais, c'est une bonne question. Comment une élection régionale peut affaiblir la chancelière et menacer, comme vous le disiez Fred, l'équilibre du gouvernement d'Angela Merkel? Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Fred.
Correspondant de RFI à Berlin, la CSU, l'allié traditionnel d'Angela Merkel, a subi un revers historique dimanche dernier en réalisant son plus mauvais score depuis le milieu des années 50. Pour répondre à la question de Fred, cette chute était-elle prévisible? Tous les sondages avaient annoncé la débâcle.
Oui, tout à fait. Les sondages qui sont... qu'on les aime ou pas, le seul véritable instrument, en amont des élections, avait effectivement prédit cette défaite historique de la CSU, puisque les résultats sont finalement assez proches des derniers sondages, avec un peu plus de 37% pour la CSU, contre environ 10 points de plus il y a 5 ans. La majorité absolue à laquelle ce parti était abonné a disparu. Alors, est-ce que c'était prévisible ou est-ce que les causes étaient prévisibles? Oui, en partie, il y a une usure du pouvoir des grands partis en général en Europe. Il y a aussi sans doute la volonté d'un certain nombre de Bavarois, d'électeurs, de ne plus avoir un parti régnant, entre guillemets, seul dans la région. Il y a aussi la campagne dure de la CSU, assez droitiste, qui a déplu à des électeurs, ce qui explique aussi en partie le bon score des Verts, et puis un style politique un peu trop arrogant, et puis aussi l'image, il faut le dire, de la grande coalition du gouvernement en place à Berlin, qui a nuit à la CSU, qui en est partie prenante, comme aux sociodémocrates, il faut le rappeler, qui sont aussi les autres grands perdants de cette élection.
Effectivement. Alors la Bavière, pour ceux qui ne connaissent pas l'Allemagne, est un land très important, c'est l'une des régions les plus riches du pays. Comment une élection régionale peut à ce point fragiliser Angela Merkel?
Bien, comme je le disais, parce que le parti qui est uniquement présent en Bavière, c'est une spécificité, la CSU est aussi l'allié d'Angela Merkel au niveau du gouvernement. Donc même si ce parti a mené la vie dure Angela Merkel ces derniers mois, voire depuis 2015 avec l'arrivée massive de réfugiés, En même temps, c'est aussi quelque part un affaiblissement du camp conservateur dans son ensemble. Donc, c'est aussi un affaiblissement indirectement pour la chancelière. Cela peut aussi avoir des conséquences sur la façon dont la CSU va se comporter. Encore une fois, elle a mené la vie dure à Angela Merkel. Un parti qui subit une défaite historique peut aussi être un parti aux abois qui ne devient pas forcément plus confortable, entre guillemets, pour la chancelière.
Et le SPD, qui est un autre partenaire important d'Angela Merkel dans la coalition gouvernementale, est passé sous la barre des 10% en Bavière. On peut imaginer également que ce parti décide peut-être de quitter le gouvernement. J'imagine que la question sera débattue. Elle avait été déjà débattue il y a quelques années au moment de la débâcle du SPD. Donc voilà, ça explique et ça contribue à la fragilisation de la chancelière.
Oui, tout à fait, puisqu'il y a non seulement les états d'âme au sein du camp conservateur, il faut aussi se rappeler que le 28 octobre, il y aura une autre élection importante où cette fois-ci, c'est la CDU d'Angela Merkel qui est candidate et qui actuellement dispose du président de la région. Donc l'échec ou un recul serait encore plus douloureux. Mmh. Et puis effectivement, au sein du camp social-démocrate, où on a accepté cette nouvelle grande coalition en reculant, certaines voix déjà se manifestent en disant on peut pas continuer comme ça. D'un autre côté, le SPD devait quitter la coalition, s'il devait y avoir de nouvelles élections, ce qui est tout de même assez improbable, ça serait un harakiri électoral vu les sondages actuels pour le SPD, mais aussi pour le camp conservateur, il faut le souligner, avec actuellement 26%, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait de nouvelles élections. Donc ce couple qui est quelque part sur un radeau qui sombre est obligé de rester ensemble.
Effectivement. Fred, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci à vous et à Pascal Thibault.
Pascal Thibault, correspondant de RFI à Berlin. Bonne journée à tous les deux. Il est 10h17 à Paris. Appelez-nous, vous êtes les bienvenus. L'antenne vous appartient. 33 9 693 693 70. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez des questions sur l'opposant russe Alexei Navalny.
Oui, cet opposant, Alexei Navalny, a été libéré de prison après avoir purgé, on le sait, une peine de 50 jours de détention. Une fois la liberté retrouvée, il a été de nouveau convoqué par la police pour des faits de diffamation, on le sait, qui remontent à 2016. Mmh. Alors, que risque-t-il dans cette affaire ? Ensuite, à la suite de toutes ces séries d'arrestations qu'il subit depuis un moment, est-ce qu'il pourra poursuivre ses activités politiques ?
Oui, Alexei Navalny présenté comme l'opposant numéro un à Vladimir Poutine. Bonjour Daniel Valot.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Moscou, il a donc été libéré de prison dimanche et dès le lendemain, il a été convoqué par la police ?
Oui, c'est Alexei Navalny lui-même qui l'a expliqué sur les réseaux sociaux. Il a été convoqué par la police dans le cadre d'une affaire de diffamation, mais la convocation n'a duré finalement que quelques minutes et l'opposant est ressorti du commissariat sans avoir été arrêté et sans qu'une mise en accusation ait été prononcée à son encontre. Alexei Navalny estime que c'est le battage médiatique autour de cette nouvelle convocation qui aurait poussé les autorités russes à rétropédaler en quelque sorte et à renoncer à ces nouvelles poursuite. Alors un mot tout de même de cette affaire de diffamation qui remonte à 2016. C'est un enquêteur du ministère de l'Intérieur russe, Pavel Karpov, qui accuse Alexei Navalny de diffamation. Il lui reproche d'avoir publié à son encontre des accusations de corruption et de l'avoir également impliqué dans la mort du juriste Sergueï Magnitsky, ce juriste qui était, dont la mort est à l'origine d'une crise diplomatique entre la Russie et les États-Unis. Pour l'instant, pas de nouvelles procédures judiciaires à l'encontre d'Alexei Navalny, qui avait enchaîné tout de même deux séjours en prison et qui craignait visiblement d'y retourner aussitôt.
Ouais, il a multiplié les séjours en prison, notamment pour avoir organisé des manifestations interdites, d'où la question d'Olivier, qui est légitime. A-t-il encore l'intention de continuer ses activités politiques malgré cette pression qu'il subit ?
Eh bien, écoutez, si l'on en juge, en tout cas par ses déclarations, Alexeï Navalny visiblement reste déterminé à lutter contre Vladimir Poutine, à mobiliser ses partisans et à tenter de convaincre les Russes en général qu'ils doivent cesser de faire confiance au Kremlin. Alexeï Navalny, en bref, n'a pas du tout l'intention de renoncer à son combat. Il sait qu'il peut compter sur son réseau de militants tout aussi déterminés que lui, réseau qu'il a d'ailleurs étendu désormais aux principales villes du pays. Il dispose également de sa chaîne YouTube, de ses enquêtes sur la corruption des élites. L'une de ces enquêtes a d'ailleurs récemment poussé le chef de la garde nationale russe, vous en souvenez peut-être, à le provoquer en duel et à l'insulter, ce qui témoigne tout de même de la fébrilité des autorités russes face aux activités du blogueur. Alexeï Navalny continue de gêner le pouvoir à un moment où la popularité de Vladimir Poutine est en chute libre, car depuis sa réélection triomphale en mars dernier, il y a eu la réforme des retraites en Russie, une réforme qui a ulcéré une grande partie de l'électorat de Vladimir Poutine. Alexeï Navalny le sait et il sait également qu'il peut profiter de cette vague de mécontentement.
Oui, Alexeï Navalny qui avait appelé d'ailleurs à manifester contre cette réforme impopulaire des retraites. Olivier ?
Oui.
A-t-on répondu à vos questions ?
Oui, je suis très satisfait. Je remercie toute la rédaction de RFI.
Et surtout Daniel Valo, qui est notre correspondant permanent à Moscou. Bonne journée à tous les deux. Merci Olivier d'écouter RFI à Abidjan, où il est 8h21. On repasse au standard avec une question sur cette affaire qui a pris des allures de crise internationale. La disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Bonjour Hippolyte.
Oui, bonjour.
Vous êtes en région parisienne.
Oui, je suis à Chilly Magasin.
Très bien, vous avez le droit. On vous écoute.
Ben voilà, Donald Trump avait annoncé des représailles contre l'ambassade, contre l'Arabie Saoudite, s'il s'avérait qu'ils sont impliqués dans la disparition du journaliste Jamal Khashoggi au consulat à Ankara. Mm-hmm. Mais désormais, M. Trump semble défendre l'Arabie Saoudite. Mais comment explique-t-on ce changement de position ?
C'est une bonne question, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait menacé dimanche de châtiments sévères l'Arabie Saoudite en cas d'implication avérée dans la disparition de ce journaliste. Et puis depuis deux jours maintenant, Donald Trump relaye les démentis de la famille royale. On constate une certaine bienveillance de Donald Trump vis-à-vis de la famille royale. Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Enseignant-chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, vous êtes rédacteur en chef également de la revue Orient Stratégique. Comment expliquer ce revirement de Donald Trump ?
La position du président américain est très compliquée parce que, évidemment, l'administration Trump entretient une relation privilégiée, on peut dire, avec la gouvernance saoudienne incarnée par le prince Mohammed bin Salman. Donc cette affaire est du plus mauvais effet. À la fois évidemment pour l'image du royaume, mais aussi pour la viabilité de la relation entre Washington et Riyad. Et ça explique d'ailleurs que le président Trump effectivement évoquait la possibilité d'éléments incontrôlables. C'était une perche tendue d'une certaine manière à Riyad, qui l'a d'ailleurs prise au bon, puisque aujourd'hui il semblerait, d'après CNN, que la version qui serait présentée ferait état effectivement d'agents incontrôlables dans le cadre d'un interrogatoire qui aurait dégénéré et qui permettrait d'exonérer évidemment une responsabilité officielle saoudienne.
Oui, puisqu'il faut pour Washington sauver la face finalement dans cette affaire.
Bah, de toute façon, tous les interlocuteurs se tiennent les uns les autres. C'est ceci expliquant sans doute cela. D'ailleurs, le président Trump précédemment, quand il avait évoqué la possibilité d'un châtiment sévère, avait dit qu'il n'était pas pour autant question de renoncer au contrat faramineux qui avait été passé avec Riyad, notamment les 110 milliards de contrats d'armes, et donc il devait y avoir vraisemblablement d'autres options pour gérer cette crise. Le problème, c'est qu'on est dans un contexte de gestion de crise dans l'urgence et avec tous les aléas que ça implique.
Oui, il avait dit, en parlant de ces contrats d'armes, « Je ne veux pas nuire aux emplois américains, je ne veux pas perdre une commande pareille. » Évidemment, il y avait plus de 100 milliards de dollars en jeu. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, d'avoir répondu à Hippolyte, qui nous écoute donc dans la région parisienne. Il nous reste 5 minutes. On va certainement prendre la dernière question de ce matin, mais il y en aura d'autres, évidemment, demain. Sachez que le standard reste ouvert tout au long de la journée. Et si jamais vous tombez, ce qui peut arriver, sur le répondeur, n'hésitez pas, vous nous laissez votre prénom, votre numéro de téléphone et la thématique sur laquelle vous souhaitez interroger la rédaction et les experts de RFI. Bonjour Rodrigue.
Oui, bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, on vous écoute. Allô Rodrigue.
Oui, allô Juan.
On vous écoute, vous êtes à l'antenne.
Voilà, en fait, d'après un rapport de deux ONG, des pays européens auraient accordé des milliers de passeports et titres de séjour à des riches investisseurs.
Oui.
Alors, je souhaiterais savoir quels sont les risques de cette pratique.
Alors, c'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques jours. Deux ONG, Transparency International et Global Witness, ont rédigé un rapport intitulé « Dans le monde trouble des visas dorés ». Ces deux ONG pointent du doigt le manque d'encadrement de ces programmes qu'on appelle les visas dorés. Bonjour Laure Brio.
Bonjour Juan, oui, bonjour et bonjour Rodrigue, merci pour vos questions.
Je vous présente tout de même, je vous présente Laure Brio, c'est la moindre des choses. Vous êtes chargé des questions de lutte anti-blanchiment pour Transparency International Europe et vous avez donc coécrit avec Global Witness ce rapport. Vous dénoncez dans ce rapport donc une marchandisation de la citoyenneté et du droit de résidence. Vous dites que des milliers de passeports ont été vendus à des riches. De quoi s'agit-il ?
Oui, effectivement, notre rapport pointe du doigt les risques liés à la vente de passeports et de permis de séjour qui s'est multiplié en Europe, qui est proposé par un certain nombre de pays européens. Donc on a identifié 4 pays pour la vente de passeports et 12 pour la vente de permis de séjour en Europe. L'ensemble étant désigné en anglais sous le terme de Golden Visa, mais incluant la vente de passeports également.
Oui.
La première chose qu'il faut noter, c'est qu'il ne s'agit pas d'un phénomène marginal, comme vous l'avez indiqué, Juan. Au cours de la dernière décennie, plus de 6 000 passeports et 100 000 permis de séjour ont été vendus dans le cadre de ces programmes. En termes d'investissements directs étrangers générés par ces pays, on estime le montant total à 25 milliards d'euros au minimum depuis le début de ces programmes.
Mais attendez, Laure Brio, que l'on comprenne bien. Bon, moi, j'ai lu les résumés de ce rapport qu'on peut consulter d'ailleurs sans problème en anglais. Je ne sais pas si en français il est déjà publié. Mais quel est le problème ? C'est-à-dire que un citoyen suffisamment riche, non membre de l'Union européenne, arrive dans un pays comme Chypre, puisque vous avez cité Chypre, en disant voilà, donnez-moi un passeport chypriote et je m'engage à investir tant de millions ou peut-être tant de milliards dans votre pays. Quel est le problème ?
Alors effectivement, il est tout à fait légitime de se poser la question de savoir si la citoyenneté européenne et pour ce qui est des permis de séjour, l'accès à l'Europe devrait être ainsi marchandisé. En tant que citoyenne, j'ai mon idée sur la question. Nous, on a observé ça d'un point de vue lutte anticorruption, parce qu'en tant qu'activiste engagé dans la lutte anticorruption, c'était ce qui nous intéressait. Et c'est vrai qu'on a observé un certain nombre de risques. Le premier étant les insuffisances avec lesquelles le profil des candidats était contrôlé.
C'est-à-dire qu'on ne vérifie pas véritablement qui est le candidat, qui est l'investisseur. C'est ça le problème.
Voilà, on parle de gens extrêmement fortunés, de personnes exposées politiquement, qui investissent un montant important, qui peut, dans le cas de Chypre, par exemple, s'élever à jusqu'à 200 millions d'euros. Et pour Chypre ou pour le Portugal, par exemple, aucun contrôle n'est effectué quant à l'origine des fonds investis, quant à l'origine du patrimoine des candidats, etc. Et on a des cas avérés dans la presse. Il y a certains cas qui ont fait un peu de bruit dans les médias récemment, notamment de cas de personnes avec un casier judiciaire ou qui apparaissaient sur des listes de sanctions internationales ou encore suspectées d'être impliquées dans des affaires de corruption comme des affaires comme le Lava Jato, par exemple, au Brésil.
Et en deux mots, que demandez-vous à l'Union européenne après la publication de ce rapport ?
Alors, le problème qu'on a identifié, c'est que les risques affectent non seulement les pays qui vendent ces passeports, mais également l'Union européenne dans son ensemble, puisque ces personnes peuvent ensuite accéder à l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est un problème européen qui doit trouver une solution au niveau européen. Pour nous, il est essentiel que l'Union européenne s'empare de cette question et qu'une régulation de l'industrie de la vente des passeports, enfin, du commerce des passeports, soit mise en place au niveau européen. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de régulation ni de standard autre que volontaire pour tout ce qui est règles anti-blanchiment. Donc, il est essentiel que l'Union européenne établisse des standards et des règles harmonisées en matière de contrôle et de vérification des postulants, en matière de gouvernance, qu'elle soumette tous les acteurs de l'industrie aux règles anti-blanchiment.
D'accord.
Et par ailleurs, pour les pays dont les programmes menacent la sécurité collective des nations européennes, que l'Union européenne engage des procédures contre ces pays.
Que l'Europe prenne à bras le corps ce dossier, c'est ce qu'on retiendra en tout cas. Merci beaucoup, Laure Briot de Transparency International.